me suis retard, mais c'était des coups de téléphone successifs. Je pouvais pas m'en dire, comme c'était des choses importantes. Donc, la dernière fois, je vous avais montré un peu ce qu'il y a de tout à fait particulier dans la question de la philosophie du vivant. Ce qui n'est pas suffisamment explicité dans la philosophie d'Aristote. Je crois tout le développement de la psychologie au grand sens, cette attitude réflexive, permet de comprendre qu'il y a quelque chose de particulier dans cette saisie du vivant. Il y a une méthode spéciale qui est très difficile à préciser du reste. Parce que ça reste philosophique, ça reste objectif, et cependant, ça implique cette attitude réflexive. Mais c'est toute la différence qui existe entre la science biologique et la philosophie du vivant. C'est que la philosophie du vivant essaie de saisir ce qu'il y a de tout à fait particulier dans le point de vue de l'opération vitale. Il faut être un spectateur privilégié de l'opération vitale. Et pour ça, il faut saisir de l'intérieur. Le vivant, c'est celui qui se meut. Si je saisis le vivant de l'extérieur, je ne le saisis pas comme vivant. Comme disait quelqu'un malicieusement, la science biologique saisit le vivant mort. Il faut que le vivant soit mort pour que la science biologique puisse le saisir, ce qui est très vrai. Et donc, au fond, on ne saisit que l'aspect matériel du vivant. Je ne peux jamais saisir le vivant comme vivant. Oui, je crois ça très important pour nous, parce que on est impressionné par le progrès si intense de la science biologique. Pas nier que ce siècle a fait que la science biologique a fait des progrès intenses. Et là, on risque toujours de dire, mais la philosophie devrait tenir compte de tout cela. Oui, du côté causalité matérielle. Donc, du côté disposition. Aucun principe nouveau. Les lois biologiques sont des lois scientifiques qui reposent sur la mensuration. Je saisis le côté matériel du vivant. Alors, il faudra se demander dans quelle mesure cette fameuse parole d'Aristote reste vraie. L'âme est la quiddité du corps vivant, de l'homme. Et donc, si je ne saisis pas l'âme, je ne saisis pas la quiddité du corps humain. Je me souviens, c'était à Fribourg, cette réaction violente dont je vous ai déjà parlé, cette étudiante de biologie, espagnole, donc il réagissait bien, entendant ça. Saisir la philosophie du vivant. philosophie du vivant pour comprendre cela. Et c'est capital dans le monde d'aujourd'hui. Oui, la science, les sciences physiques et biologiques et les sciences psychologiques ne saisissent que les dispositions et les dispositions ex parte matérielles, ce qui est divisible. Et c'est pour ça que les sciences poussent toujours ou conduisent toujours s'impose à un positivisme qui est fondamentalement matériel. Donc le matérialisme. C'est pour ça que Lénine pouvait dire, faut pas l'oublier, de ces paroles de Lénine qu'il faut jamais oublier. Le marxisme doit évoluer en fonction du progrès de la science. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu une alliance secrète entre le positivisme et le marxisme. Et cette alliance continue. Je crois que c'est très très important de comprendre ces choses-là. C'est pour être lucide au climat dans lequel on est et de voir où ça mène. La science biologique ne dit rien de l'âme. Quel est le principe propre de la philosophie du vivant? C'est la découverte de l'âme. Puisque la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. Ce n'est pas la philosophie de l'araignée. Si intéressante que soit l'araignée au point de vue irascible. L'araignée est un animal qui est d'une irascibilité extraordinaire. J'ai un spécialiste de la psychologie des araignées. Au ce choix. Il avait tous les livres qui paraissaient sur les araignées. Et sur la sexualité des araignées spécialement. De sorte que je me suis dit, voyez, le seul choix d'Étiole s'effondre. Il peut s'effondrer. Parce qu'il était construit sur les alluvions de la Seine. Il s'effondre. Tout disparaît. On découvre une seule cellule. La cellule de ce père. On découvre, selon une loi très particulière, cette bibliothèque. On voit tous les livres sur la sexualité d'araignée. On dit, il y avait un couvent qui était construit pour étudier la sexualité d'araignée. C'est comme ça qu'on construit l'histoire, oui. Ça peut très bien se faire, ça. Quand on voit comment on a essayé de comprendre Qumran. Mais il y a un élément. Et comme c'est le seul, il explique tout. C'est très intéressant de voir ça. Point de vue critique. Donc, la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. C'est pas une anthropologie, c'est une philosophie du vivant. Et c'est légitime, puisque l'homme est le vivant le plus parfait que je peux connaître. Et c'est le seul vivant que je peux connaître comme vivant. Puisque les réactions du chien qui pleure quand son maître est absent, en fait, une herméneutique en fonction de ce que vous vivez, vous, comme homme, et vous le transposez sur le chien. C'est comme ça que vous faites aussi pour la moi des ermites. Alors vous comprenez, vous devez essayer de comprendre pourquoi. C'est quand même intéressant de voir ça. La psychologie de la vache, c'est très difficile à savoir. Vous la voyez en fonction de l'homme. Et n'importe quel animal, c'est comme ça. L'irascibilité de l'araignée, vous le voyez en fonction de l'homme. L'araignée qui tend sa toile d'araignée et qui est là, au bout, et qui attend que la mouche arrive. On a tous vu ça. Puis elle se précipite dessus. Puis elle saisit tout le sang. Elle le laisse. Oui, c'est l'irascibilité. Alors vous comprenez très bien à partir de là qu'est-ce que c'est que cet animal qui est une irascibilité si forte. Oui, c'est métaphorique. C'est une analogie, mais métaphorique. Par mode. Est-ce que c'est par mode de similitude? C'est métaphorique. Vous projetez sur le monde des animaux votre philosophie du vivant. Au plan philosophique, il n'y a qu'une seule philosophie du vivant, celle de l'homme. C'est la seule, du reste, qui intéresse le philosophe. Alors, le philosophe doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce vivant que je suis ? Je suis un vivant. Vivant. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce vivant? Pour cela, je regarde toutes mes diverses opérations dans leur très grande diversité. Je peux les décrire, je peux essayer de saisir ce qui caractérise chacune de ces opérations. Depuis le sommeil, je décris le sommeil. J'ai conscience du moment où je perds conscience et où je me remets au rythme de l'univers. C'est pour ça que les enfants n'aiment pas dormir. Parce qu'ils partent au-delà, dans un monde inconnu. Alors il y a les rêves, il y a les cauchemars. Ça fait partie des opérations du vivant, ça. Qu'est-ce que ça représente? Il n'y a pas beaucoup de traités sur les rêves. Aristote en a fait un. Freud aussi. Mais entre deux, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est très intéressant à faire, d'Aristote à Freud. Et de voir l'interprétation qu'Aristote donne des rêves et l'interprétation que donne Freud. Beaucoup de traités sur l'imagination, vous savez. Il y a Aristote, le premier. Parce que Platon n'a pas donné de traité sur les rêves. Ça ne l'intéressait pas. Tandis qu'Aristote, ça l'intéresse. Ça, c'est le réalisme d'Aristote. J'essaie de comprendre toutes mes opérations vitales. Et c'est toujours moi. Donc, il y a une unité radicale à travers toutes ces opérations vitales. Et il y a cette très grande diversité. C'est cette unité dans la diversité qui m'oblige de poser un principe propre de vie. Le corps explique la diversité. Est-ce que c'est le cœur qui est Il y a un principe d'unité qui ne peut pas être le corps. Pourquoi? Parce que je constate des opérations qui sont les mêmes sur la pensée, cogito, même Descartes, cogito. Et j'aime Socrate. Et j'aime Aristote. Et j'aime Platon. Je suis capable d'aimer aussi des vivants. D'un amour spirituel. D'un amour d'amitié. Puisque toute la philosophie pratique est antérieure à la philosophie spéculative. Et donc, je peux me servir de tout cela. Et si je veux comprendre cette unité dans cette diversité, je dis qu'il y a un principe radical qui fait l'unité substantielle de l'homme comme vivant, de moi comme vivant. Et ce principe, cette source d'unité, je l'appelle âme. Je souligne tout de suite que le mot âme, ce n'est pas les philosophes qui l'ont inventé. Le mot âme provient des traditions religieuses, comme le mot Dieu. Il faut être très honnête, au point de vue philosophique. Il y a des mots qui sont nés en climat religieux, parce que le climat religieux est antérieur au climat philosophique. Les pythagoriciens, toute l'Inde, et Platon est le premier à essayer de comprendre que quand les traditions religieuses distinguent l'âme et le corps, ça correspond à une réalité. Le corps, on n'en doute pas, mais l'âme, on la découvre. On la découvre inductivement. Mais il faut bien comprendre que cette induction, pour qu'elle soit tout à fait efficace et qu'elle aille jusqu'au bout, elle réclame une expérience intime et affective de l'âme. Mon âme est présente à moi-même. C'est pour ça que les biologistes, qui sont des hommes de vie intérieure, sont obligés de reconnaître que leur vie intérieure ne s'explique pas par leur science biologique. Mais les biologistes, qui sont positivistes, le positivisme est une position philosophique. Le positivisme n'est pas la science. Et donc ces savants qui sont positivistes ramènent tout à la matière, aux neurones. Et seuls les philosophes peuvent leur montrer que là, ils font une confusion. Et une terrible confusion. Parce qu'ils ramènent tout à la cause matérielle. Et que cela n'explique pas l'unité profonde qu'ils peuvent constater en eux. Et le moi profond, c'est moi qui mens. C'est moi qui dors, qui m'éveille. C'est moi qui travaille. C'est moi qui pense. Et là, le moi n'est pas haïssable. Au contraire, il me permet de dépasser le point de vue matériel. question, mais quelle est cette source? Et pour répondre à cette question, quelle est cette source? Il faut l'induction. Donc il y a deux connaissances de l'âme au plan philosophique. Une connaissance première immédiate par l'intériorité. L'intériorité est une expérience. Je ne peux pas mettre ça en doute. Et cette intériorité me met en présence d'une source, d'une idée. Mais cela ne suffit pas parce que cette intériorité me met uniquement en présence d'une source cachée. Je ne sais pas exactement ce qu'est cette source, ce qu'elle est. Donc, il faut prendre le procédé inductif qui me fait découvrir cette source. Et je qualifie cette source d'âme. C'est pour ça que je dirais source radicale de vie. de suite cette très grande diversité.
Ces trois niveaux de vie impliquent un ordre, mais une seule âme.